Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
On aborde le numéro 816 du catéchisme de l'Église catholique pour continuer à développer cette note de l'Église qui est l'unité, son unité. Saint Pierre et ses successeurs sont-ils une figure de cette unité de l'Église ?
Oui, les pères de l'Église très tôt ont compris la centralité de la figure de Pierre à travers les passages de l'Évangile bien connus de Matthieu chapitre 16 ou de Jean chapitre 21 ou encore Luc avant la Passion, où chacun des passages montre un rôle particulier de Pierre qui est toujours cité en tête quand on parle des 12 et qui montre bien que Jésus compte sur lui. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, paie mes agneaux, paie mes brebis et confirme tes frères une fois que tu seras revenu. Ces trois paroles qui montrent l'ampleur du ministère de Pierre est unique. C'est-à-dire, il n'y a que lui qui reçoit cette parole. C'est ça qui est extraordinaire. Même s'il y a des paroles qui sont données collectivement aux 12, hein, qui vous écoutent, m'écoutent, hein, et c'est vrai qu'il y a un magistère authentique de chaque apôtre et de chaque évêque dans la succession apostolique, mais il y a une primauté qui a été reconnue tôt dans l'histoire de l'Église. Et saint Augustin disait « Pierre est la personnification de l'universalité, de l'unité de l'Église ». Donc c'est très fort d'avoir dit cela dans son discours 295. Et avant lui, Ambroise, qui l'a baptisé, disait « Ubi Petrus, ibi ergo ecclesia ». Là où est Pierre, là est donc l'Église. Donc il y a comme une sorte de simultanéité entre Pierre et sa succession et l'Église universelle. Et nous avons donc besoin sans cesse de nous y attacher en sachant que Pierre n'est pas le maître comme notre Seigneur Jésus, il est au service du maître, il est porte-parole du maître, il est pontifex, c'est-à-dire il fait un pont entre Jésus et nous. Et saint Jean Chrysostome l'avait bien noté en commentant les Actes des Apôtres, Pierre s'est conduit en interprète et non comme un maître. Il est l'interprète de ce que Jésus lui dit dans le Saint-Esprit. Il est porte-voix, porte-parole de ce que Jésus veut nous dire lorsqu'il veut instruire son Église.
Oui, donc une des vraies clés ou des clés très visibles de l'unité de l'Église, c'est notre communion au successeur de Pierre. Alors tout semble passer par là, ça semble être le critère un peu essentiel de notre unité.
Alors oui, en tout cas, c'en est un très important, et saint Augustin que je citais précédemment a ce joli jeu de mots en disant « Christus Petra, Petrus Ecclesia ». C'est-à-dire, le Christ est la pierre, et Petrus, Saint-Pierre, est l'Église. Et donc, il y a vraiment une péricorèse, comme on dirait même au niveau, je dirais, du mystère, je dirais, de l'incarnation, ou même du mystère trinitaire. Il y a une sorte de péricorèse entre Pierre et l'Église. C'est très mystérieux. Puisque Pierre reste un pécheur, et nous nous souvenons qu'une fois que Jésus a eu le mot pour instituer Pierre comme celui sur lequel il allait s'appuyer pour fonder son Église, Pierre déraille et Jésus est obligé de lui dire « arrière Satan ». Donc il y a un paradoxe de cette fragilité de Pierre qui est un homme et qui ne peut ne pas toujours être à la hauteur de son ministère et chuter de temps en temps. Et on voit bien dans l'histoire des papes, des 300 quelques papes qui ont eu lieu, certains ont été moins à la hauteur de leur mission que d'autres. D'autres sont saints, sont canonisés, beaucoup sont martyrs. Sur les 30 premiers, il doit y en avoir 26 ou 27 qui sont des martyrs. Donc ils ont vraiment imité le Christ et Pierre lui-même dans le don de leur sang jusqu'au bout. Et puis il y en a d'autres qui, comme les papes Borgia à l'époque de la Renaissance, qui ne sont pas des modèles pour l'histoire de l'Église.
Donc, mais même s'ils sont mauvais, s'ils ont une moralité mauvaise, ils restent quand même successeurs de Pierre et ils incarnent en eux quelque chose de l'unité de l'Église.
Oui, et c'est ça qui montre que c'est Jésus qui tient la barre, même quand Jésus semble dormir dans la barque, dans le passage des synoptiques où Jésus dort dans la barque, et bien finalement la barque semble tanguer dans les flots dangereux qui pourraient submerger l'embarcation, et en fait Jésus se réveille, il fait taire le vent et la tempête, et en un instant il peut remettre le calme. Donc il semble que celui qui tient la barre à ce moment-là, qui était peut-être Pierre justement dans cette barque, eh bien n'ait pas pu faire grand chose au milieu des flots, mais c'est Jésus finalement qui conduit toujours toute chose. Et c'est ça où nous avons besoin de cette alternance entre, je dirais, des papes prophétiques qui nous aident à aller de l'avant, et on sent que Saint-Pierre est devant les brebis, qu'il les conduit, puis parfois il peut être seulement derrière, à tirer avec sa grande crosse quelques brebis égarées qu'il essaye de ramener dans le troupeau, et qui a l'air d'être moins un éclaireur qu'un veilleur. Il y a donc des attitudes relativement différentes d'incarner ce ministère de Pierre, avec des hauts et des bas, des défaillances, mais toujours l'Église garde sa confiance et prie pour Pierre. Dans les Actes des Apôtres, il y a un passage émouvant où Pierre est prisonnier par les autorités donc des Juifs qui ont poussé à incarcérer Pierre, et voilà que dans cette situation où Pierre pourrait mourir, je dirais, prisonnier dans cette mauvaise situation où il passe, eh bien, il y a une délivrance miraculeuse de Pierre. C'est au chapitre 12 de l'épître des Actes des Apôtres, et il y a un ange qui est envoyé à Pierre pour venir le délivrer. Et pendant ce temps où Pierre est en situation très grave, eh bien on dit que toute la communauté priait pour lui. Et ça, c'est important de le comprendre, que même si les autorités des Juifs ont fait arrêter Pierre, à ce moment-là, il y a cette prière de l'Église. C'est au verset 5. « Tandis que Pierre était ainsi gardé en prison, la prière de l'Église s'élevait pour lui vers Dieu sans relâche. » Et c'est pour cela que nous avons à cœur de maintenir le nom de Pierre dans chacune de nos eucharisties. Et c'est là où on voit la dissidence, la désunion, dès que le nom de Pierre n'est plus mentionné. Et de nos jours, c'est simple, c'est le pape régnant pour lequel nous prions.
Au numéro 816, je lis la citation de la Constitution apostolique « Lumen Gentium ». L'unique Église du Christ est celle que notre Sauveur, après sa résurrection, remit à Pierre pour qu'il en soit le pasteur, qu'il lui confia à lui et aux autres apôtres pour la répandre et la diriger. Cette Église, comme société constituée et organisée dans le monde, est réalisée dans, entre parenthèses, subsistit in, l'Église catholique, gouverné par le successeur de Pierre et les évêques qui sont en communion avec lui. Cette expression, l'Église est réalisée dans l'Église catholique, à la fois semble très formelle et en même temps semble tout ramener à l'Église catholique en la distinguant des autres églises. Est-ce que tu peux développer ce point ?
Oui, c'est un choix certainement crucial que Lumen Gentium, dans cette constitution dogmatique, a pris pour exprimer à la fois cette vérité que l'unique vraie Église subsiste dans l'Église catholique, et même le texte pour les Églises orientales dit « est l'Église catholique hein, » dans « Orientalium Ecclesiarum » et « est cette Église catholique », mais en même temps, en mettant le mot « subsiste », on peut accepter qu'il y ait des éléments qui soient en quelque sorte relié à cette subsistance, tout en n'étant pas, je dirais, pleinement ce même être. Voyez, c'était délicat pour arriver à dire à la fois l'unité de cette Église catholique et sa vérité totale, et que les autres éléments qui sont des éléments donc d'unité, de vérité, de grâce, à travers tout ce que vivent les communions séparées, eh bien vivaient quelque chose de vrai au sein de leur communauté et étaient reliés d'une manière, je dirais, invisible à cette communauté eucharistique. Et on a utilisé cette expression quelque peu philosophique de la subsistance, mais certains traduits se trouvent hein, à la place de subsistit, en disant cette Église comme société constituée, organisée dans le monde, se trouve dans l'Église catholique. Donc on est sûr de la trouver dans l'Église catholique, et les autres éléments qui sont en dehors de l'Église catholique sont relatifs à cette Église catholique. C'est un peu comme en philosophie, quand on parle de la substance et des accidents. Les accidents sont périphériques, mais sont reliés et n'arrivent à se maintenir qu'en lien avec cette substance. C'est très certainement de ce point de vue-là que l'Église a fait ce choix déterminant du subsistit, et qui est unique. Attention, il n'y a qu'une seule subsistance. On ne peut pas dire que, par exemple, l'Église orthodoxe bénéficierait de la même subsistance, puisque nous considérons qu'il y a une désunion, et il y a donc une séparation, et cette désunion fait que les vérités et les réalités bonnes qui sont en elle ne sont bonnes qu'en lien avec cette subsistance dans l'Église catholique.
À bientôt, frère Edouard.
À bientôt.